aborder maintenant quelques questions, non pas de sciences de l'éducation, mais des questions sur l'éducation et la formation scientifique aujourd'hui. Je fais la différence pour deux raisons. D'une part, personnellement, je ne suis, même si je suis en sciences de l'éducation, après avoir été en physique, je suis plus intéressé par les questions de conception en éducation et en formation et de mise en œuvre de projets d'éducation et de formation que par la recherche purement scientifique, même si il m'est arrivé d'en faire. Et d'autre part, je crois que dans ce colloque, il peut être intéressant de reprendre avec les mêmes interrogations quels sont les vrais problèmes, comment formuler les problèmes d'éducation, donc à un stade qui est pré-scientifique, mais qui a une importance tout à fait fondamentale dans la détermination des orientations sur l'éducation scientifique ou éventuellement technologique. Alors, chaque fois qu'on aborde l'éducation, il y a une différence fondamentale avec beaucoup d'autres domaines. C'est que de la même manière qu'en sport, tout le monde le lundi matin peut donner son avis sur les compétitions de la veille, que ce soit un avis informé ou que ce soit un avis superficiel, en éducation, n'importe quel citoyen a le droit, tout à fait légitime, d'avoir une opinion sur l'éducation. Cet avis légitime n'est pas pour autant fondé. Et ce que j'aimerais, c'est essayer, à propos de deux questions, de vous montrer, en marchant en quelque sorte, comment on peut essayer de mieux fonder, donc de s'intéresser à la manière dont on peut problématiser des questions d'éducation. Le premier thème, évidemment, il est difficile de ne pas l'aborder dans les conditions actuelles et dans un colloque qui concerne les problématiques scientifiques, c'est la désaffection par rapport aux études scientifiques. Cela a déjà été rappelé hier matin en introduction par Gérard Charbonneau, et dans une université scientifique, c'est une préoccupation tout à fait fondamentale. Cette inquiétude est tellement forte qu'on voit fleurir des propositions sans aucune base, sans aucun fondement, sans aucune analyse des raisons, des arguments pour les étayer et sans beaucoup d'examen des conséquences de ces propositions. Alors j'en prends une parmi ces solutions improvisées. Tout le monde sait que les États-Unis renouvellent leur potentiel scientifique, non pas avec les Américains nés sur le sol américain, mais en faisant de l'importation. Et les Américains posent à l'occasion, quand ils viennent en France ou en Europe, la question, nous allons fonctionner au moins pour une génération. Peut-être pas plus, hein. Avec des Asiatiques, quels sont vos Asiatiques? Et une des réponses qui a fleuri, eh bien, nos Asiatiques, ce sont les filles. Ce qui est assez curieux, ce qui est assez curieux, quand on sait que si on laisse faire les choses, eh bien, ce n'est pas vraiment là-dessus qu'on risque rapidement de corriger les flux actuels qui seraient tendanciellement en baisse. Mais quel est le vrai problème? Comment caractériser le problème aujourd'hui des flux de formation scientifique? Il y a eu beaucoup d'expressions d'impression et même des rapports avec extrêmement peu d'études sérieuses. Il y a une bonne étude sur laquelle je pense qu'il est bon de s'appuyer, c'est l'étude qu'avait conduite Jean Dercourt et qui a été publiée en 2004 sur les flux d'étudiants susceptibles d'accéder aux carrières de la recherche. Une étude de l'Académie des sciences, pilotée par l'Académie des sciences et publiée aux éditions de physique. Qu'est-ce que donne cette étude? D'abord, c'est que, en ce qui concerne les bacheliers scientifiques et technologiques, les flux sont stables de 85 à 2002, à peu près 46% des flux totaux de bacheliers. Que les inscrits en filière scientifique dans l'enseignement supérieur voient des proportions de flux à peu près stables, 35% en 2002 contre 36% en 1996. Donc, le problème, aujourd'hui en tout cas, ne se situe pas, la baisse n'est pas au niveau lycée et au niveau directement entré dans l'enseignement supérieur, toutes filières confondues. Donc, on ne peut pas dire qu'il y ait une désaffection massive, même si il y a une tendance à la baisse entre 1996 et 2002. Par contre, l'effet massif que met très bien en évidence et dont discute beaucoup moins le rapport de Jean d'Hercourt et que discute beaucoup moins beaucoup d'autres publications, c'est les contrastes majeurs entre les disciplines scientifiques et technologiques. La physique pour la France a vu une baisse de 40% dans les inscriptions universitaires entre 1996 et 2002. À l'opposé, l'informatique voit une hausse de 48%. Entre les deux, vous avez des variations plus faibles qui vont de moins 19% en sciences de la vie, moins 24% en mathématiques, moins 9% en chimie, plus 15% pour les sciences de l'ingénieur hors informatique. Donc, je crois qu'il faut examiner de manière très sérieuse la signification de ces variations, parce que qui pourra reprocher aujourd'hui à des étudiants de vouloir s'inscrire en informatique et peut-être un peu moins en physique ? Il n'est pas évident que leur calcul ne soit pas le bon calcul. Évidemment, comme physicien, on se sent un peu triste, mais c'est aussi, ça fait partie des évolutions. Alors ensuite, les vrais problèmes que met en évidence Jean d'Hercourt, c'est au cours de l'enseignement supérieur. C'est-à-dire qu'il apparaît dans toutes les enquêtes des craintes très fortes exprimées par les étudiants pour des études longues, difficiles, à risque, avec donc une préférence pour des parcours avec des paliers de sortie relativement assurés, parce que qualifiants, mais ouverts tout de même à des poursuites d'études. Donc par exemple, une augmentation récente des effectifs dans les IUT, qui, au détriment soit des anciens DEUG, soit même quelquefois des BTS, parce qu'on peut continuer avec un IUT, mais on a déjà un diplôme reconnu. Alors, finalement, quand on regarde les choses dans ce rapport sérieux, c'est que les problèmes majeurs se voient au niveau troisième cycle. Parce que globalement, et pour les raisons déjà indiquées précédemment, il y a une augmentation relativement importante en pourcentage des DESS. Et maintenant, on va voir ce que ça donne dans les masters à orientation mention professionnelle. Mais par contre, il y a stagnation, quelquefois baisse, au niveau des DEA et donc vers les poursuites de recherche et de doctorat. Il y a une baisse du nombre de doctorats, des flux de docteurs ces dernières années dans toute une série de disciplines. Il y a donc une première question tout à fait fondamentale auquel il faut répondre du point de vue éducatif, c'est quels sont les débouchés scientifiques à des formations scientifiques. C'est une question qui a été abordée hier. En dehors des recrutements de chercheurs et d'enseignants-chercheurs, que fait-on des docteurs en France ? Et c'est là-dessus que je pense qu'il faut se poser la question, c'est quelle ambition pour la recherche en sciences et technologies a-t-on aujourd'hui dans un pays comme la France ? Et quel usage des gens qui ont fait un peu de recherche, donc qui sont à la fois capables de poser un problème, d'essayer d'y répondre avec les ressources de la recherche, qui, ce faisant, ont communiqué avec des chercheurs, se sont constitués ce qu'on peut appeler un carnet d'adresses, c'est-à-dire des capacités de pouvoir interroger d'autres personnes et utiliser les savoirs ou les capacités de problématiser d'autres personnes. Que veut-on en faire dans le monde économique d'aujourd'hui ? C'est, je crois, la question fondamentale. Au-delà, je pense qu'il faut prendre conscience du fait que, à des niveaux en dessous, la formation de spécialistes scientifiques, si elle apparaît insuffisante, si elle apparaît en crise, c'est par rapport à une vision qui risque de changer. Je veux prendre un exemple. Tous les collègues scientifiques croient qu'on va avoir, à cause des départs en retraite qui viennent de commencer, un besoin extrêmement fort d'enseignants dans le second degré en sciences. Ça n'est pas du tout évident. Ce qu'organise la loi d'orientation et de programmation, dite loi Fillon, c'est d'abord la suppression des travaux pratiques en sciences et en technologie par la suppression des effectifs allégés pour ces disciplines. Donc, une réduction des besoins d'enseignants en sciences expérimentales et en disciplines technologiques. À la place, ce qui est promu, si vous avez bien lu, ça s'appelle, pour au niveau collège, une formation humaniste et scientifique qui permettent une formation du citoyen. Tout le monde croit que ça laisse la même conception de l'éducation scientifique au niveau du collège. Pour comprendre de quoi il s'agit, il faut lire les textes de l'OCDE ou, encore plus nettement, les textes anglais qui correspondent aux évolutions du National Curriculum anglais. J'ai ici un texte qui est d'un livre paru en 2002 qui est un ensemble d'études sur la révision de 2000, donc sous le gouvernement actuel, Tony Blair, du curriculum anglais. Et ce qu'il dit, c'est ceci. Ce que nous voulons, c'est la formation dans l'enseignement général obligatoire du citoyen. Et pour ça, bien, prenons l'enseignement scientifique, ce dont nous avons besoin, c'est de raconter des sciences. C'est de faire ce qu'ils appellent une pédagogie narrative des sciences, et puis d'organiser des débats. Et finalement, un débat, ça se fait plutôt mieux à 40 qu'à 20, parce qu'au moins, c'est représentatif des débats qu'on peut avoir quand il s'agit de choix dans le débat politique. Du point de vue mathématique, là, c'est encore plus ferme, c'est-à-dire exprimer en termes d'objectifs de compétences, et il y a dans tous les pays cette idée que tout doit être exprimé en termes d'objectifs de compétences, voilà ce qu'on dit. Bon, les quatre opérations sur les entiers naturels, relatifs, etc., bon, ça, d'accord, on en a besoin. On a besoin aussi de connaître quelques figures géométriques et leurs transformations. Au-delà, quand on aborde l'algèbre, c'est-à-dire l'algèbre élémentaire, mettre une inconnue dans une équation, alors là, ça devient difficile, et donc, vraisemblablement, il ne faudrait pas que ça soit dans l'enseignement général obligatoire. Quand on évalue le nombre d'heures nécessaires, en gros en 15 heures par semaine pour l'enseignement général obligatoire, ça apparaît largement suffisant. Il n'y a pas de besoin si c'est ça qui va apparaître. Donc, il y a besoin, je crois qu'il faut réellement s'interroger pour, avant d'engager beaucoup de jeunes vers les sciences, sur ce que nous pouvons leur offrir et quel est l'avenir au moment où ils auront réellement à rentrer dans le métier. La deuxième question, au-delà de quel emploi donnons-nous de type scientifique pour les scientifiques, c'est quelle ambition avons-nous comme éducation, pour l'éducation et la formation des scientifiques pour tous, aussi bien dans le primaire que dans le secondaire. J'aimerais, pour revenir à l'université, poser une dernière question. En nombre de scientifiques embauchés, vous voyez que les flux sont faibles, et les flux d'étudiants scientifiques sont supérieurs aux flux directement embauchés comme scientifiques, c'est-à-dire qu'il y a des reconversions. Comment se fait-il que nous ne défendions pas l'idée qu'une formation scientifique supérieure est une bonne formation générale pour des métiers non scientifiques requérant une formation supérieure ? Il y a 50 ans ou 100 ans, ça n'aurait pas paru aberrant, même si les flux de scientifiques étaient faibles. Il y a des gens qui ont une formation scientifique et qui vont dans d'autres métiers, de l'économie, du management, etc. Mais c'est une exploitation des filières d'excellence pour y arriver. Ce que nous n'arrivons pas à dire clairement, c'est que une bonne formation littéraire ou en sciences sociales ou économiques, comme ça, ça c'est une formation générale qui est bonne pour tous, une formation scientifique ne remplit pas ce rôle. Nous sommes donc dans une situation tout à fait claire et grave où les sciences, quel que soit leur niveau, ne sont pas considérées globalement du point de vue politique et économique comme un fondement culturel fondamental. On est dans une situation dont il faut prendre la mesure. On disait hier, en Allemagne, les docteurs occupent une place très importante. D'une certaine manière, quand vous allez dans une administration allemande ou dans une entreprise, à partir d'un certain niveau de responsabilité, quand on vous appelle monsieur et pas docteur un tel, c'est qu'on vous méprise. Je dirais, c'est pas vraiment le cas. Madame. Oui, madame. Ça. Alors en Allemagne, tu n'en trouves pas tant que ça. Les ingénieurs en Chine jouent un rôle essentiel à tous les niveaux de responsabilité, et d'abord au plus haut niveau de l'État. Je crois qu'on est dans une situation qui est un peu analogue d'ailleurs qui avait été à celle de l'Angleterre, qui avait été dénoncée dans un article de 1995 dans le Journal of Science and Public Affairs, où John Postgate disait ceci. Depuis deux générations, nous avons des adultes sans culture scientifique. Pas seulement, il ne s'agit pas simplement, alors je traduis dans un mot, enfin une locution un peu ancienne, mais c'est bien la locution que prenait John Postgate, il ne s'agit pas seulement des larges masses, plus ou moins cultivées, mais il s'agit de la grande majorité des écrivains, des journalistes, des médiateurs, des politiques, des administrateurs et même des universitaires et enseignants dans les humanités. Cela comprend donc la grande majorité des gens qui prennent les décisions, qui éduquent les enfants, qui fixent les tendances et influencent l'opinion. Je crois que la situation en France est largement aussi grave, et depuis aussi deux générations. La culture type fondée sur, je dirais, l'École nationale d'administration ou les écoles de commerce, est une culture qui joue fondamentalement contre la culture scientifique. De la même manière que, sur le plan technologique et scientifique, la culture type école d'ingénieurs sans prolongement vers de la recherche joue contre aussi la culture scientifique. Alors, bon, j'aurais besoin aussi, et on pourrait prolonger sur les aspects sexués ou les aspects de genre de ces affaires-là, mais je voudrais prendre un second thème. Ah ben, j'ai déjà dépassé, donc je ne le verrai pas. Je voulais simplement, là, vous montrer comment, à propos d'éducation à l'environnement, il y a besoin, là aussi, de regarder très précisément les choses, de manière à ne pas croire que parce que, comme chercheur ou comme curieux, on s'intéresse à la connaissance sur l'environnement, on est capable de monter une éducation à l'environnement. Il n'existe pas d'éducation ou de formation qui ait pour seule finalité la construction de connaissances. Et l'éducation à l'environnement, c'est une éducation aux comportements individuels et sociaux vis-à-vis de l'environnement. Ce n'est pas la mise en place de sciences de l'environnement. Et donc, je voulais attirer simplement votre attention sur le fait que dans poser les problèmes d'éducation, c'est poser d'autres problèmes que poser des problèmes de recherche concernant des domaines qui sont ceux de cette éducation. La recherche sur l'environnement requiert, par exemple, des montages interdisciplinaires extrêmement forts. L'éducation à l'environnement, au niveau de l'école primaire, je dirais du collège, n'est pas interdisciplinaire, parce qu'au fond, les disciplines existent peu encore à ce niveau-là. Elle doit être conçue comme quelque chose de non-disciplinaire, et c'est toute la difficulté de l'affaire. De ce point de vue-là, les scientifiques font faire des erreurs majeures, et c'est une des raisons pour lesquelles cette éducation ne se développe pas. Il y a besoin d'une problématisation spécifique, propre, pour l'éducation. De la même manière, une discipline scolaire, qu'elle s'appelle mathématique ou qu'elle s'appelle science physique ou qu'elle s'appelle science de la vie, ne correspond pas exactement, n'a pas les mêmes finalités, n'a pas la même mode de construction et de fonctionnement qu'une discipline de recherche. Il y a un travail propre à faire. Alors, bon, faisant cela, si vous voulez, je voulais rejoindre en partie le thème général du colloque, qui est que, aussi bien pour l'éducation que concernant cette réflexion sur les sciences que nous avons mené pendant ces deux jours, l'important sans doute est de concevoir l'activité dans ces modes de questionnement largement plus, même si c'est important, que dans leurs résultats. Ainsi que l'affirme un auteur anglais dans le titre d'un de ses livres, « Science as a questioning process », je dirais, c'est ce « prendre la science » comme une sorte de méthodologie du questionnement pouvant déboucher sur des réponses précises qu'il est important de prendre en compte, et pas simplement le cumul des connaissances acquises. Vous avez vu un certain nombre là d'apports, de réflexions sur les manières dont les questionnements ont été changés, tout particulièrement cet après-midi, dans les dernières années. Mais je pense que, du point de vue éducatif, cela demande d'aller encore un peu plus loin. Pendant très longtemps, et personnellement j'ai commencé à m'occuper d'éducation scientifique, l'idée que nous avions, c'est qu'il fallait mettre l'éducation scientifique à jour. Il fallait tenir compte des problèmes scientifiques, des progrès des sciences. Je pense que cette manière de voir, qui était sans doute justifiée en 1970, quand je suis rentré dans cette aventure, ne correspond plus tout à fait et même sans doute plus du tout à la situation d'aujourd'hui. Pas seulement parce qu'on se préoccupe des liens dont on se préoccupait peut-être un peu moins à l'époque, entre l'évolution des sciences, l'évolution de la société, les pratiques réelles, etc. Mais parce qu'effectivement, les pratiques réelles, les institutions scientifiques, les institutions de développement, les organisations ont changé, et que donc la question doit être posée autrement. Il s'agit de mettre en correspondance l'éducation scientifique générale et les formations scientifiques générales ou spécialisées avec l'état réel d'aujourd'hui, des pratiques et des institutions de la recherche et du développement. C'est une tâche qui demande un approfondissement beaucoup plus important de l'analyse des besoins actuels, des tendances actuelles, en prenant plus de distance par rapport aux dernières découvertes, même si elles interviennent et elles sont intéressantes. C'est à cette idée que je veux en rester. Et, bon, je voudrais maintenant profiter de la minute qui me reste, pour dire que ce colloque était une entreprise risquée, et nous savions qu'elle était risquée, car le thème est difficile, il est ambitieux. Nous avons demandé à un certain nombre de collègues d'essayer un peu de se mettre à nu sur la manière dont ils interviennent pour orienter les travaux de recherche. Ils le font en marchant. Ils le font au milieu d'autres avec lesquels ils rentrent en connivence, c'est-à-dire qu'ils se comprennent, ils savent quelles sont les positions des uns et des autres, ils connaissent les règles des jeux, et puis ça ne produit pas les résultats qu'ils attendent. Mais devant un public comme le nôtre, il est beaucoup plus difficile d'expliciter et de se faire comprendre sur la manière réelle dont les problématiques changent, dont les dispositifs sont construits, dont ils prennent en compte, la manière dont ils prennent en compte les enjeux sur l'impact qu'ils peuvent avoir. Bon, ceci suppose un travail d'élaboration propre. Un certain nombre l'ont fait de manière tout à fait remarquable, et je crois qu'il faut les remercier pour le rapport. D'autres, bon, ont donné des témoignages, et c'est à nous de faire un peu le travail de réflexion pour en tirer, par comparaison d'ailleurs avec les apports des premiers, tout ce que nous pouvons avoir comme enseignement de ce qu'ils nous ont apporté, mais de toute manière, c'est à nous de reprendre l'information et les points de vue qui nous ont été présentés. Voilà, je crois que j'ai un peu abusé de votre attention et je vous remercie en tout cas d'avoir tenu jusqu'à la fin de ce colloque.